voix nue. Ce soir encore, Stéphane Bou rencontre Rachel Hertel. Tout de suite, transmettre une langue assassinée.
Bonjour Rachel Hertel.
Bonjour Stéphane.
Alors, hier, vous nous avez longuement parlé de l'enseignement de la langue yiddish, de l'enseignement de la traduction, de la manière avec laquelle vous aviez formé des chercheurs, des traducteurs. Je voudrais qu'on en revienne à ce qu'étaient vos choix propres de traduction. Et je voudrais essentiellement que vous nous parliez de la poésie yiddish que vous avez traduit et qu'on évoque peut-être tout de suite ce très grand livre que vous avez écrit en 1993 qui s'appelle « La langue de personne ». Qui est à la fois un essai sur la poésie d'après la catastrophe et en même temps un recueil de poèmes que vous avez traduits.
Alors ce livre, c'est la poésie de toute façon dans la culture juive est quelque chose d'extrêmement important. Il commence avec la Bible elle-même et se continue tout au long des siècles. Et en ce qui concerne la poésie yiddish de l'anéantissement, ce que j'appelle dans la langue de personne, en plagiant évidemment Celan, dans la rose de personne, je le fais de manière tout à fait délibérée parce que c'est quelque chose qui est tout à fait original, tout à fait hors commun. Les historiens ont fait leur travail, ils le font soigneusement, ils le font exactement, ils font leur travail avec une conscience, évidemment je ne parle pas des négationnistes, je parle des véritables historiens, mais l'histoire, elle ne peut pas se transmettre indéfiniment, l'histoire s'adresse à un public relativement restreint, à des spécialistes, à des lecteurs, des amoureux d'histoire. La poésie a une toute autre fonction. La poésie a une fonction de dire non pas la véracité, non pas l'exactitude, mais la vérité telle qu'elle est au fond, telle qu'elle est dans les profondeurs de l'être. Et c'est ça qui affecte tout lecteur, c'est ça qui transporte l'émotion, qui transporte le deuil, que seule la poésie peut donner et que l'histoire l'évoque, mais ne peut pas le donner et ne peut pas le prolonger en tout cas. Et donc ce livre, pour moi, ça a été une manière de rendre hommage aux précurseurs, ceux qui ont prévu que c'était le Khurban qui allait arriver, ceux qui ont vécu pendant la guerre et qui ont écrit. Ringelblum, l'historien du ghetto de Varsovie, il, dans ses œuvres, écrit, tout le monde écrivait. Et effectivement, tout le monde se sentait obligé d'écrire pour à la fois témoigner et témoigner de diverses manières. Témoigner de manière concrète et témoigner de manière symbolique et témoigner de manière émotionnelle et témoigner de manière douloureuse tout ce qui se passait. Et seule la poésie est capable de transporter tout cet ensemble d'affects que les autres types de discours ne transportent pas. Par ailleurs, on vivait au jour le jour et ceux qui écrivaient le yiddish ne se lançaient pas dans des romans à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas le temps d'écrire des romans. On avait le temps d'écrire des poésies à la rigueur et encore, ou quelques lignes ou quelques vers, mais c'était par ces vers, par ces quelques lignes que tout se transmettait dans les profondeurs de la souffrance qui les accablait.
Rachel Hertel, vous venez de le rappeler, les Juifs ont tout de suite témoigné de leur anéantissement pendant l'événement, tout de suite après. Ils ont écrit des poésies, ils ont produit de l'art, et ça a été pour eux une nécessité absolument vitale. Et votre travail est véritablement de rendre compte de cette nécessité vitale-là. On pourrait dire que une doxa s'est installée, néanmoins, qui va à l'opposé de ce constat-là, à savoir, c'est la fameuse phrase d'Adorno, « pas de poésie après Auschwitz », la poésie peut être barbare après Auschwitz. Donc comment vous expliquez-vous cette méconnaissance de cette nécessité qu'ont eu les Juifs de immédiatement rendre compte de leur anéantissement ?
Eh bien, les Juifs étaient dans les ghettos, étaient dans les camps, et ils vivaient au jour le jour, à l'heure, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, les souffrances, les privations, les carences, toutes les douleurs que l'on peut imaginer, ils les ont éprouvées. Ils ont eu besoin de témoigner. Ils savaient très vite, ils ont su. Et le monde l'a ignoré ou a voulu l'ignorer, parce que je pense que tout le monde et le monde entier est complice. Le monde l'a ignoré, mais les Juifs ne l'ont pas ignoré qu'ils étaient condamnés à mourir. Et donc il fallait créer quelque chose qui témoigne de leur existence, qui témoigne de ce qui, de l'horreur qu'ils subissaient quotidiennement, de cette espèce de d'abolition de leur vie même, de leur existence, de leur être. Et donc ils ont écrit tout de suite. Je vais donner un exemple avant de parler du ghetto de Varsovie à New York. Donc loin des opérations militaires, à New York, le premier livre du souvenir paraît. Le livre du souvenir, ce sont des livres qui décrivent la vie d'un shtetl, d'une bourgade, d'un bourg. Et dès 43, à New York, on a écrit un livre du souvenir. Et en ce qui concerne les ghettos et les camps, parce qu'il y a des écrits que l'on trouve enterrés sous la cendre d'Auschwitz, eh bien, ces Juifs ont toujours eu le besoin de témoigner, et de témoigner de toutes les manières, de témoigner concrètement, de témoigner symboliquement, de témoigner de tous ceux qui les touchaient au plus profond d'eux-mêmes et qui pouvaient comporter quelques lignes, quelques vers, qui ne pouvaient certainement pas comporter des romans parce que les romans étaient trop longs à écrire, mais qui écrivaient tout ce qu'ils pouvaient et le notaient et le transmettaient, l'enterraient dans le lieu où ils se trouvaient de manière à ce que ça puisse être retrouvé si un jour quelqu'un le cherchera, si un jour quelqu'un survivra pour le trouver.
Mais pourquoi ce corpus a été si mal connu pendant si longtemps? Pourquoi cette doxa dont je parlais à l'instant, hein, oui. Pas de poésie après Auschwitz, pourquoi très longtemps un poète comme Celan pouvait apparaître comme singulier, solitaire, régnant au milieu d'un silence?
Ou Nelly Sachs d'ailleurs.
Oui, alors que ce qui apparaît dans un livre comme La langue de personne, c'est l'incroyable prolifération.
L'incroyable prolifération, exactement, et partout dans le monde. Alors c'est-à-dire à la fois, je vais vous répondre, à la fois sur les lieux de l'extermination et en Russie et aux États-Unis. Partout où se trouvaient des Juifs, on écrivait là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est au fond ce qui était... C'était inaudible pour les autres. Ce n'était pas indicible, c'était inaudible. Personne ne pouvait croire ou ne voulait croire, parce que je suis persuadée que tout le monde savait à partir de 42 ce qui se passait. Personne ne voulait croire et donc personne ne voulait l'entendre. Donc c'était inaudible et c'était tout à fait dicible. Mais c'était dicible dans une langue qui était la langue des Juifs, la langue des massacrés, la langue des exterminés. Et donc la doxa, effectivement, c'est une faute majeure de la conscience humaine.
Rachel Hertel, c'est en ce sens que vous avez cette formule, que la traduction est pour vous un geste existentiel. Vous nous avez dit que c'est un exercice spirituel. Là, c'est autre chose dont il s'agit pour vous.
Oui, il s'agit effectivement de quelque chose d'ontologique pour moi. J'ai commencé à traduire très jeune, j'ai commencé à traduire pour moi toute seule. Ensuite, quand j'ai connu Marcel, nous avions 20 ans l'un et l'autre. Et
Marcel, votre mari?
Mon mari, effectivement. Et je traduis pour lui, de manière à ce que nous puissions partager les mêmes préoccupations et les mêmes affects. J'ai traduit ensuite, quand les filles sont devenues grandes, j'ai traduit pour que mes filles puissent lire les poésies yiddish. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose que j'ai voulu faire connaître au monde entier. Et c'est là que j'ai créé la collection Domaine Yiddish. Et Domaine Yiddish...
Et en quelle année?
C'est en 1970. Donc, je l'avais commencé avant, mais enfin, ça n'a pas marché. Ça a commencé, en fait, en 1970, en publiant chez L'Âge d'Homme, mais ça n'a pas duré. En fait, ça a été une collection nomade. Elle a fait à peu près tous les éditeurs français, comme d'ailleurs tous les juifs qui se trimballent avec l'emballon. Moi, je me balais avec mes livres.
Une collection diasporique.
Alors, ils sont allés au Seuil, à Julliard, Liana Lévy, enfin je ne sais encore, enfin des quantités d'éditeurs. Chacun me publiait 4 livres et me disait, mais vous savez, ça ne rapporte rien. Mais il suffisait qu'il me le demande, je savais que ça ne rapportait rien. Donc c'était pas la peine de faire des grandes études économiques pour savoir que ça ne rapportait pas grand-chose. Mais c'était un devoir qui s'imposait à moi parce que c'était pour lutter contre cette vision folkloriste qu'il y avait du domaine yiddish. On racontait des bonnes blagues en yiddish, on considérait que c'était un folklore, on n'a jamais considéré que c'était une langue monde, que c'était une culture monde.
Et quels étaient justement vos critères de choix? Oui. Est-ce que vous aviez l'ambition de rendre compte de toute l'histoire de la littérature yiddish?
Pas du tout. Je suis beaucoup trop peu savante pour pouvoir faire une chose pareille. Ce que j'ai voulu faire, c'est introduire la modernité. La fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est l'époque du modernisme et de la modernité dans toute la littérature européenne et américaine et anglo-saxonne en général. Et donc, j'ai voulu montrer que le yiddish était une sorte de caisse de résonance de toute cette modernité qu'elle empruntait partout et qu'elle retransformait en sa propre chair et en sa propre langue et en sa propre vision et en ses propres images, ses propres métaphores. Mais elle faisait partie de cette grande envolée lyrique, de cette grande envolée moderniste qui a marqué jusqu'aux années, disons, 30, jusqu'à l'arrivée des régimes totalitaires. Et le yiddish en a fait partie. Et c'est cette partie-là que je voulais faire connaître pour essayer de replacer la littérature yiddish dans le contexte qui était le sien.
Rachel Hertel, vous avez dit tout à l'heure que pendant la guerre, il n'y avait plus le temps, la possibilité d'écrire des romans, ces romans que vous avez qui éclataient à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, dont vous venez de parler. Et c'était essentiellement des poètes, ces poètes que vous avez traduits pour la langue de personne. Je voudrais qu'on parle malgré tout de quelques romans qui ont pu être publiés après-guerre, en l'occurrence, et notamment celui qui a occupé une grande partie de votre vie, ce monument qui s'appelle « À pas aveugle de par le monde » de Leib Rochman, ce grand écrivain que vous avez connu et dans l'œuvre duquel vous êtes resté pendant presque 10 ans à partir de l'année 2000. Je voudrais que vous nous parliez de cet auteur, Leib Rochman, de ce livre « À pas aveugle de par le monde » qui, vous avez traduit un nombre considérable de livres, mais celui-ci, me semble-t-il, a un statut à part.
C'est vrai, ce livre a un statut à part parce que c'est le livre de mon deuil. Au cours des années 2000, j'ai perdu mes parents et en 2003, j'ai perdu mon mari. Et je ne sais pas par quel miracle, ce livre que j'avais lu des dizaines d'années avant, je me suis précipitée sur ce livre et je me suis plongée là-dedans pendant 4-5 ans où je n'ai pas arrêté, je travaillais jour et nuit comme une possédée littéralement. Et c'est là le livre de mon deuil. Pourquoi le livre de mon deuil? Parce que ça raconte exactement l'histoire d'un groupe de juifs, d'une communauté juive qui parcourt le monde après le génocide. Il n'y a plus personne ou presque personne. Ils se retrouvent de lieu en lieu et il y a ceux qui veulent continuer à vivre et qui veulent gagner la terre d'Israël. Et selon la légende juive, quand Israël renaîtra, tous les morts dans tous les pays sous terre regagneront Jérusalem, la ville sur le mont. Et c'est effectivement ce qui se passe pour un certain nombre d'entre eux. Et ils passent par tous les pays, et dans tous les pays, ils éprouvent cette espèce de vide qui les entoure. Alors pour les uns, c'est cette volonté de continuer et de revivre et de recontinuer une vie quelconque. Et pour d'autres, c'est au contraire ce qui a été mon cas. c'est de rester dans les catacombes. Et donc toute une partie de ces juifs reste dans les catacombes. C'est un livre, véritablement un livre monde, parce qu'il parcourt le monde entier comme à pas aveugle de par le monde.
Oui, mais c'est un livre aussi, il faut le noter pour ceux qui ne l'auraient pas eu encore entre les mains, c'est un livre absolument gigantesque. C'est une somme, c'est une fresque, c'est un livre où il y a des registres de langues et de narrations totalement différents les uns des autres. C'est un livre d'une modernité incroyable.
C'est un livre monde et c'est un livre qui couvre toute l'histoire du peuple juif, en fait, parce que il remonte jusque au Moyen Âge et il revient jusqu'à l'extermination. Il rend compte des écritures et des créations en yiddish et des créations juives en d'autres langues. C'est un livre qui répond probablement aux besoins que nous avions tous à l'époque, moi en particulier, pour des raisons personnelles, d'un livre qui m'emporte, dans lequel je me noie.
Vous l'avez connu, Leib Rochman?
J'ai connu Leib Rochman à rue Guy Patin. C'était un homme très discret, un homme extrêmement délicat.
Donc quand vous étiez enfant, hein?
Quand j'étais enfant, c'était un homme très discret, extrêmement délicat, qui parlait tout doucement. Et jamais on n'aurait pu imaginer que cet homme, qui était un homme fragile, mais comme ils l'étaient tous, avait cette force, cette puissance absolument extraordinaire de créer un univers absolument hors du commun. Et ce qu'il y avait d'ailleurs pour Rochman, mais c'était vrai aussi pour d'autres. Dans la journée, c'était de petits bons hommes qui se débrouillaient comme ils pouvaient, et le soir, quand ils se transformaient en orateurs ou en lecteurs, ils se devenaient des demi-dieux.
Vous avez écrit cette phrase que je trouve très étrange, et encore plus étrange après vous avoir entendu parler pendant ces quelques entretiens que nous avons fait ensemble. Vous écrivez « Pour tous ceux pour qui le récit de l'histoire familiale et personnelle a toujours été camouflé, occulté par l'histoire collective, le « je » est presque impossible ». Alors, c'est d'abord objectivement étrange, parce qu'il y a un nombre considérable de livres de témoignages, de livres qui racontent, de livres écrits à la première personne. C'est devenu presque un genre en soi, hein, le genre des rescapés de la Shoah qui donnent leur histoire de cet événement. Puis là, on vient de parler, vous avez parlé, il me semble, vous avez réussi à parler à la première personne. Pourquoi cette phrase à l'époque, qui a quelques années maintenant, le « je » est presque impossible pour vous,
Et si vous avez lu, si vous vous souvenez de « Dans la langue de personne », pas une seule fois je ne dis « je ». Dans le shtetl, je ne dis « je » que dans l'introduction. Dans aucun de mes livres, je ne dis « je ». Je ne pouvais pas dire « je ». C'était quelque chose, les événements que je vivais me dépassaient de tellement loin, de tellement haut, de tellement fort que je ne pouvais pas dire « je ». Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à écrire une autobiographie parce que je ne peux pas dire « je ». Je peux vous parler en disant bien sûr à la première personne, puisque on ne peut pas parler à quelqu'un d'autre sans utiliser la première personne, mais je suis absolument incapable d'écrire une autobiographie ou quelque chose qui, dans l'écriture, me touche personnellement.
Vous n'avez jamais essayé ?
J'ai essayé, mais je l'ai trouvée tellement mauvaise que je l'ai mise à la poubelle.
Est-ce que ça a à voir avec ce que vous disiez dès le premier entretien, à savoir que les 10 premières années de votre vie sont ce blanc sans souvenir?
Est-ce que c'est lié à ça?
À cette espèce d'origine presque perdue, hein,
une origine totalement perdue, une absence, un blanc total, peut-être se confondant avec la steppe sibérienne. Je n'ai rien, je ne me souviens de rien, ni de ma mère, ni de sa voix, ni de son chant, Elle a dû me parler, mais mon enfance est une enfance à la fois que j'ai vécue comme ça, je ne sais pas si elle l'était véritablement, mais une enfance que j'ai vécue comme à la fois muette et sourde. Je n'ai rien de cette enfance.
Mais c'est pour ça que vous dites que le jeu est impossible pour vous ? Est presque impossible pour vous?
C'est probablement pour ça, oui. Je pense que le jeu est la personne de l'enfant. Après, on s'intéresse au tu. Mais pendant l'enfance, on s'intéresse au jeu. Et moi, je n'ai pas le souvenir de m'intéresser jamais au jeu.
Et dans cette situation psychologique, disons, particulière, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de faire une psychanalyse, par exemple, pour retrouver les souvenirs? Parce que souvent, les personnes qui ont des oublis comme les vôtres entreprennent, faire une psychanalyse.
Oui, moi je n'ai pas envisagé de faire de psychanalyse parce que je sentais que ce mur, jamais je n'arriverais à le briser. Je sentais que c'était un béton tellement fort, tellement puissant que jamais je ne pourrais le franchir.
Jamais vous ne pourriez ou jamais vous ne le voudriez au fond?
Écoutez, c'est difficile à démêler, hein, surtout maintenant.
À propos du yiddish, il y a une phrase que je trouve troublante et que j'aimerais que vous commentiez, une phrase de vous. Vous dites que le yiddish, selon vous, s'est substitué à l'hébreu dans l'ordre du sacré.
Oui, le yiddish s'est substitué à l'hébreu dans l'ordre du sacré parce que l'hébreu est devenu langue vivante, s'est transformé en langue vivante, en langue véhiculaire, en langue de commerce, en langue de communication, en langue de journaliste, en langue de médias. Le yiddish n'a jamais passé ce stade. Le yiddish est resté la langue des assassinés. Et donc la langue des assassinés est nécessairement sacralisée comme le sont les exterminés.
L'hébreu, par ailleurs, c'est une langue que vous connaissez ou pas?
Je connais mal.
Vous n'avez jamais voulu l'apprendre?
J'ai voulu l'apprendre, mais je n'ai jamais vraiment réussi à... Quels sont les obstacles? Je n'en sais rien, mais je n'ai jamais vraiment réussi à l'apprendre.
Et j'en profite pour vous réinterroger sur votre rapport à Israël. Vous m'avez dit qu'en 1948, il n'était pas véritablement question pour votre famille d'aller en Israël. Quel est votre rapport aujourd'hui à Israël, compte tenu de son histoire maintenant depuis 70 ans?
Mon rapport à Israël est un rapport de proximité, c'est-à-dire que je suis absolument pour l'existence d'Israël et je tiens beaucoup à ce que Israël survive et continue longuement. Je ne sais pas si l'histoire lui donnera cette chance, mais je pense qu'Israël est en train de se fourvoyer sur le plan politique.
Alors, pour conclure cette série d'entretiens, Rachel Ertel, je voudrais vous demander aujourd'hui comment vous formuleriez votre conception de la transmission. Quelle passeuse avez-vous voulu être et quelle passeuse voulez-vous être encore? Comment vous le formuliez ça?
Eh bien, je voulais être une sorte de double passeuse. Tout d'abord, je m'adressais à ceux des Juifs qui ne connaissaient pas le yiddish et qui ne pouvaient pas avoir accès à cette langue et pour qui ça représentait un problème insurmontable. Ça a été ma première visée. La deuxième visée, ça a été dans ma culture française pour qui la littérature française est une des plus grandes littératures du monde entre Proust et tous les autres que je lis et relis sans arrêt. Je voulais aussi que l'imaginaire yiddish entre dans la littérature française et enrichisse de ses particularités et de ses beautés la littérature française.
Comment pensez-vous que se perpétuera la mémoire du monde yiddish dans les années à venir?
Écoutez, le monde yiddish, on a parlé déjà des historiens, du travail effectif.
D'ailleurs, j'ai dit le monde yiddish, mais j'aurais dû dire la mémoire du monde yiddish.
La mémoire du monde yiddish, effectivement, c'est plus juste comme formulation. Et je pense que, comme tous les grands événements, comme tous les événements qui marquent la phylogénèse en quelque sorte, ce qui a été le cas du génocide et de l'extermination du Hurbon, du peuple juif, tous ces événements fondamentaux qui marquent la phylogénèse du monde, de l'espèce humaine, se perpétuent sous forme de mythes parce que c'est là que travaille la mémoire. Et la mémoire, c'est d'une part la remembrance, le souvenir, l'imaginaire et l'oubli. Et c'est dans cette association de ces ensembles que le mythe se transmet de génération en génération. Il change de forme, mais il se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que le premier grand texte occidental, c'est la guerre de Troie. Et la guerre de Troie, c'est un texte qui raconte un génocide. Et ce génocide, eh bien, il a été transmis pendant des milliers d'années. Et je pense que le génocide juif sera transmis d'année en année. Et si je peux conclure, pour essayer de jeter un regard, un regard sur ce qu'a été ma démarche tout au long de ces années, eh bien, c'est une phrase de Hélène Cixous qui me revient à l'esprit. Et cette phrase dit « Tout est perdu, gardons la perte ».
Rachel Hertel, je vous remercie beaucoup pour cette série d'entretiens.
Merci beaucoup à vous, surtout.
Cette rencontre de Stéphane Bou avec Rachel Hertel. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.